Et donc, si on vous la détruisait et en plus on vous faisait payer une amende pour l'avoir construite, vous ne pouviez que devenir pire et voir les gens illégaux dont on a parlé tout à l'heure. Bon. Il faut voir que la distribution de la terre urbaine est un enjeu rentier et politique considérable qu'on connaît mieux dans le tiers-monde, effectivement, qu'ici. Bon, moi, je le connais particulièrement dans le cas du Maroc et du Mexique. C'est-à-dire qu'on a des États où l'essentiel de la terre appartient au souverain sur le mode anglais, qu'il a dévolu à des féodaux divers, tout ça fait système, et les gens vendent de la terre illégalement, que eux tiennent légalement, à des gens pour construire leur maison, moyennant en fait des achats de voix, etc., pour les élections. Et donc ce système d'une terre qui est au souverain, hein, qui est distribuée féodalement, puis revendue capitalistiquement, en fait entretient finalement des notabilités qui en profitaient, et il y a eu une petite fenêtre politique où on avait réussi à faire valoir que ce système était inique contre le développement économique, contre le développement industriel. Ça s'est refermé très vite puisque à l'heure actuelle, d'après le mouvement Habitat International Coalition, on n'a jamais eu autant de destruction, de démolition que dans les toutes dernières années. Notamment, il y a eu un cas extraordinaire où en Inde, par exemple, on a démoli, je crois, 250 000 maisons pour faire passer une autoroute, enfin des trucs comme ça, sans parler de la Chine, alors que je connais très mal, mais enfin où il y a des phénomènes massifs assez incroyables, dont la dernière pollution est un exemple. Donc l'État protecteur, on ne connaît plus, alors que nous, on a vécu petit avec cette idée-là. Il y a par exemple aussi quelque chose qu'on peut citer dans le cas de la France, c'est, bon on n'en parle plus trop parce que le ministre qui s'en occupait, il avait fait des malversations, il n'est plus ministre, ça s'appelait les programmes immobiliers de la justice. Hein. Alors les programmes immobiliers de la justice, ça consistait à construire en PPP, comme on appelle ça, des partenariats public-privé, c'est-à-dire l'État fait une délégation de services publics à des privés pour gérer des prisons. Hein. Et il s'avère, c'est d'ailleurs Tony qui m'avait alerté le premier sur le sujet, hein, que en fait on peut faire du bénéf comme ça, hein, avec ce système de délégation de services publics pour gérer des prisons. Alors aux États-Unis ça existe très largement, vous savez que la quantité de noirs, je n'ai pas les statistiques, et on est un peu dans un système, je dirais, en tant que, où on a l'impression que les hommes, enfin pauvres alors pour le coup, hein, sont voués à aller en taule à travers différents contrôles et différents systèmes qui les rendent forcenés, hein, pendant que les femmes, n'est-ce pas, vont faire les nouveaux boulots extrêmement intéressants grâce aux réductions d'impôts, les riches ayant moins d'impôts vont employer plus de domestiques, et on sait bien que les femmes, pour être domestiques, elles sont géniales. Voilà. Ça, c'est le système capitaliste actuel, dont Saskia, d'ailleurs, parle très très bien. Hein. J'ai lu ça, notamment, chez elle. Donc, fin aussi de l'État arbitre, hein, et un État qui est garant des capacités des élites à profiter du système. Et l'un des enjeux qui se déroule en France, en ce moment, qui est gravissime, et alors chacun y participe à l'endroit où il est, hein, c'est ce qui se passe pour les universités, tout simplement, pour les écoles. Il y a un labo d'économie qui à Créteil, qui s'appelle le laboratoire Créteil, il y a des gens qui ont documenté ça statistiquement. Le fric investi par tête de pipe sur quelqu'un qui va simplement à la fin de la scolarité obligatoire et quelqu'un qui sort de l'ENA ou de Polytechnique et qui va devenir donc un membre de cette élite mondialisée doit être de 1 à 20. Ça s'appelle l'égalité entre tous les hommes. Hein. Bon, donc, voilà. En ce moment, c'est pareil. Dans le cadre de cet État qui a de moins en moins d'argent, parce qu'il le donne quand même, enfin, j'exagère un peu, mais quand même, il y a de ça de plus en plus aux emprises sous couvert de reconversion et de tout ce qu'on veut. Eh bien, il y a soit l'université, comme on croyait, hein. Donc il y a des pôles de compétitivité très peu nombreux et qui mettent donc en jachère une bonne partie de l'intellect de la nation pour parler comme eux. Hein. Bon, on vous raconte le contraire, mais c'est quand même ça la réalité. Donc moi je crois qu'il y a un point d'inflexion extrêmement grave et qui est bon, en plus véhiculé par un ministre qui permet, enfin qui se permet, pardon, de traiter des gens de racailles, étant ministre de l'Intérieur, il désigne les gens qu'il traite de racailles comme proie, comme cible pour les flics. Hein. Les flics sont des gens qui sont hypersensibles à l'ambiance. Quand il y avait des ministres de l'Intérieur corrects, les flics étaient plus... quand il y a un ministre de l'Intérieur insupportable, ils sont insupportables, seulement ça a des effets en chaîne. Hein. Bon. Alors, je reviens à l'histoire quand même des démolitions et de la terre urbaine et de l'illégalité. Bon, pour le pouvoir, c'est très intéressant d'avoir... Enfin, c'est pour certains pouvoirs, hein, féodaux, c'était hyper intéressant d'avoir une masse de choses illégales. Parce que quand vous êtes le pouvoir, que... Pardon. Quand vous êtes le pouvoir, que vous avez beaucoup de gens dans l'illégalité, vous êtes donc légitime à faire intervenir vos flics contre ces gens-là qui sont illégaux. Tout le monde trouve que c'est normal, presque tout le monde, sauf les gens. Par exemple, donc la terre urbaine confisquée au profit des élites, bon, je prends l'exemple du Maroc. Alors, quand on va à un colloque de sociologie urbaine au Maroc, on vous dit... Ah oui, non, mais c'est impossible, n'est-ce pas? La terre appartient au roi bidonville. Et puis le roi, il a été un peu alerté, il a fait un plan de réhabilitation des bidons. Monsieur Bouygues se pointe pour faire une ville nouvelle à côté de Rabat. Le roi lui vend la terre, et monsieur Bouygues, là, en toute propriété, toute légalité, et peut donc faire habiter des fonctionnaires sur la terre en question, ou des valets, des nobles, des notables et tout, sans problème. Enfin, pour dire que c'est quelque chose quand même de... Moi, je trouve de très précis et extrêmement intéressant. Et alors, donc, tous les États, dans le cadre du welfare state, ont construit plus ou moins des... Enfin, hein, partout, bon, en France, donc, M. Borloo a dit qu'il faudrait en démolir. C'est vrai qu'il y en avait de mauvaise qualité, tout ce qu'on veut, qui était mal situé, qui avait été construit pour des ouvriers d'usines qui n'existent plus. Enfin, il y a plein de bonnes raisons, hein. On constate donc un mouvement quand même général de démolition du logement social. Et par exemple, les Pays-Bas qui résistaient à ce... se sont fait admonester récemment par la Commission européenne qui leur a dit qu'ils gardaient beaucoup trop de logement social et que c'était pas bien, quoi. Dans le cadre européen, je ne me rappelle plus le détail de l'argumentation, mais enfin, c'est quelque chose d'important. Donc, il y a un modèle qui était celui... Alors, moi, je ne suis pas... Là aussi, pour moi, il y a un pêcheur de l'île de Ré. C'est-à-dire que, là, jusqu'à présent, tout le monde parle des métropoles, c'est les grandes villes. Hein. Notre ami vient encore de faire pareil, Tony, pareil. Et on constate un nouveau phénomène dans l'attaque de l'État contre la population, c'est qu'on se met à calculer les impôts, par exemple, à l'île de Ré, sur la base du prix d'achat de la maison du pêcheur par des gens bourrés de fric. Et donc on dit aux pêcheurs, monsieur, impôt sur la fortune, voilà l'addition. Bon. Ça se passe comme ça en Bretagne, ça se passe comme ça dans toute l'Europe, il y a un petit plan de recherche Commission européenne sur le sujet. Et donc l'État rejoint le grand capital, comme on disait que j'étais, évalué la propriété du travailleur en retraite, hein, à un niveau qui n'a rien à voir avec et sur les héritages que ça porte. Quand le pêcheur meurt et fait hériter ses trois enfants, la maison du pêcheur au prix ancien, les trois enfants rentrent dans le cadre où on n'a pas à payer de droits de succession. Donc les trois enfants de pêcheurs qui sont bon, pas grand-chose, un jardinier, enfin, des trucs comme ça, ils sont très contents. Alors maintenant, les impôts arrivent. Ah non, vous avez fait une fausse déclaration. La maison identique à côté qui a été achetée par des Américains, 2 500 000 francs, hein, et ben c'est ça que vaut votre maison sur le marché énorme. Et que doivent faire les enfants du pêcheur? Foutre le camp, exactement comme dans l'histoire des enclosures à la Renaissance. Foutre le camp, mettre leur maison en vente pour payer leurs droits de succession. Donc moi je dis que ça, c'est des nouveaux phénomènes. Alors ça s'appelle la rente, il paraît que ce sera traité à une autre séance, tant mieux. Mais c'est des nouveaux phénomènes qui rendent l'avenir particulièrement noir pour ceux qui ont peu de ressources et justifient que certains se révoltent. Alors,
deux minutes pour continuer la discussion après.
Bon, d'accord, 2 minutes quand même. Donc, parce que le modèle de la grande ville, à mon avis, sur le plan politique, c'est ce qu'on a vu à Porto Alegre. Hein. Le modèle de la grande ville, alors d'accord, il y a machin, comment il s'appelle l'allemand, là, Simmel, qui avait dit la métropole, c'est l'endroit où l'étranger se sent à l'aise parce que tout le monde est indifférent, le laisse passer sans l'emmerder, comme dans un village. En fait, aujourd'hui, dans les villages, on reçoit plutôt bien les étrangers, en fait, et dans les métropoles, on les caillasse. Bon, mais c'est pas grave, c'est un renversement. Mais la métropole, c'était cette métropole hier quand même qu'on nous a encore raconté tout à l'heure, la grande ville. Bon, c'est un lieu d'accumulation du travail, hein, au sens, moi j'estime, bon, c'est Porto Alegre qui a montré le mieux le truc, c'est-à-dire le conflit entre les propriétaires fonciers du centre d'un côté, qui ne veulent pas qu'on paye plus d'impôts, etc., et la direction du PT de l'autre, hein, qui, elle, a essayé de faire une gestion au niveau de cette métropole pour améliorer la qualité de la force de travail en apportant de la santé, des égouts, des transports, et donc en préparant les gens à travailler. Bon. Ça, c'était l'ancien système. Et dans la métropole actuelle, et je terminerai là, en fait, il me semble que la multitude qui est présente et qui est notamment formée de très jeunes gens, apparemment, c'est travail, non-travail, enfin, au sens d'emploi. Et par contre, ce qu'on devrait dégager, et on serait en phase avec la Commission européenne en même temps, c'est comment tout ce monde-là, ensemble, de manière diverse, etc., participe de ce monde fondé sur la production de la connaissance, mais avec différents types d'entrée dans ce monde, et qui sont donc une nouvelle forme peut-être de travail, mais qui ne s'analyse pas en termes d'emploi, et ça permettrait peut-être de respirer un peu par rapport à la situation actuelle. À part ça, il y a un texte qui détaille un peu une série d'arguments sur la situation française récente, et la multitude insurgée, comme a répété M. Finkielkraut dans les banlieues. Merci.